musicale et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh paint, beat to eat pour des journées captivantes.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au 81e épisode de Pop en Stock, le podcast, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de choc.ca où l'on décortique et suranalyse tout objet, événement ou phénomène de la culture populaire. Pop en Stock est aussi, pour vous rappeler, un site web qui publie des recherches, une collection d'essais aux éditions Tamer, une série de rencontres live, ainsi que dans un avenir pas trop lointain, un booktube et une tournée pan-québécoise. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui en studio ma co-animatrice Hélène Lorrain.
Bonsoir.
Bonjour Hélène.
Ça va bien?
Bien, oui, absolument, absolument. Hélène, qui est aussi l'auteur de Les filles aussi jouent de l'air guitar,
publié
aux éditions Wing.
Ben, c'est comme je faisais de l'air guitar, mais tu sais, on est à la radio, fait que...
Très, 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 d'accord. Ainsi que l'auteur de l'article de l'instinct rythmique de la musique, physicalité et inconscient chez Death Grips et Technical Kidman, publié sur notre site web. Donc, Charles Saint-Michel, bonjour.
Bonjour.
Oh yeah! Et aujourd'hui, nous allons parler d'un objet qui prend plusieurs formes, mais qui, comme la saucisserie Raicha, sert à rehausser l'aromatique automatique musicale, le synthétiseur. Cet outil qui en est maintenant à son 140e anniversaire, malgré que la confusion entre le synth et les instruments de musique électronique, soit difficile à séparer. En effet, c'est en 1876 que Elisha Gray inventa le tout premier synthétiseur, le Musical Telegraph. Et ce qui suivra fut un historique alambriqué de réappropriation et de variation qui a engendré un nombre impressionnant d'instruments de musique. Et c'est sur ce point que mon introduction se termine et que je viens rajouter un petit bémol par rapport à l'émission aujourd'hui. Cette idée que à Pop en Stock, on tente du meilleur de nos capacités d'explorer des objets de la culture populaire, donc des objets qui sont faits par des gens, pour des gens qui s'éloignent de cette dynamique-là d'une haute et d'une basse culture. Le truc avec les synthétiseurs, c'est que, évidemment, je dois admettre que je ne suis pas un musicologue, je n'ai pas une formation technique ni en électroacoustique, ni en toute n'importe quelle forme de composition musicale. Et en faisant la recherche pour cette émission-là, je suis arrivé au constat, un constat extrêmement stimulant, mais un peu effrayant, que le synthétiseur est un fandom en soi-même, et pas un fandom réduit ou petit, c'est un fandom extrêmement complexe,
oui.
Extrêmement codé, très, très, très... un sujet extrêmement passionnant, passionné, c'est très investi par sa communauté, et je me suis dit... au lieu de m'improviser comme un expert dans un domaine que je constate qui a énormément de fervents praticiens, on va vraiment garder ça sur l'objet et je vais m'éloigner de toute forme de généralisation par rapport aux synthétiseurs parce qu'il y a, faute d'une meilleure expression, des très gros geeks et geekettes de synthétiseurs dans le monde. C'est extraordinaire comment le langage est précis et l'oreille est précise aussi, mm-hmm. puis qu'on est vraiment sur le détail le plus infinidécimal quand on entre ce monde, de ce fandom-là. Fait que je suis vraiment, je me suis comme éloigné et on va aujourd'hui pour la prochaine heure vraiment tenter de parler de ce phénomène-là sans toutefois piler sur des orteils expertes ou érudites.
Ouais, on va essayer. Ouais.
On va essayer, exactement. Je pense que inévitablement une affaire que je vais dire qui va m'attirer les ires, mais bon, ça arrive. Très rapidement, parce que bon, comme je le mentionnais, 140 ans d'instruments électroacoustiques, c'est quand même pas n'importe quoi. Très rapidement, quelques dates comme ça. En 1906, c'est un ingénieur américain qui s'appelle Lee de Forest qui a amené un âge, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait The Electronics Age. Et c'est un technicien de l'électroacoustique qui aurait amené ça. Donc, c'est à partir de 1906, en fait, on s'entend encore, c'est assez difficile d'historiciser à ce point-là, que c'est le coup de fusil de départ de la pullulation de tous ces instruments de musique-là, dont le térémin, qui est, à mon avis, l'instrument le plus intriguant que je peux imaginer inventer.
Juste pour donner une idée aux auditeurs, le térémin, c'est l'instrument par excellence des films d'horreur. Oui, comme ça.
T'as raison, ouais. C'est absolument, c'est vrai, puis ouais, je pense que Goblin a un joueur de térémin. Goblin, ouais. Le groupe italien qui a fait les trames sonores pour les films de Dario Argento.
Ouais.
Ouais, je pense qu'il y en a un. C'est ça, inventé par Léo Theremin en 1920. Récemment, en fait, j'étais très, très surpris par ça. L'émission pour enfants Yo Gabba Gabba a un joueur de Theremin qui est un petit asiatique introverti qui présente son instrument aux jeunes et qui en joue un peu à la manière de... c'est Emmanuel Bilodeau hein, qui le jouait dans le film de Yves Pépeltier, Les Amants. Je pense que c'est Emmanuel Bilodeau qui le jouait dans ce film-là aussi. Encore.
J'ai aucune idée, désolé.
Peut-être un truc de même. La dernière fois que j'ai vu un joueur de térémine, c'était dans Les Amants de Yves Pépeltier. On en parlera à Yves. Encore dans les années 20 aussi, Arseny Avramov, qui a développé, en fait, moi ça c'est la curiosité par rapport à l'appellation, qu'est-ce qu'il appelle le Graphic Sonic Art, et aussi qu'est-ce que l'on a récupéré, puis qu'on a peut-être rendu moins linguistiquement complexe, on a appelé ça le Graphical Sound, qui est le Drawn Sound, c'est cette technique qui a été utilisée par Norman McLaren et Evelyn Lambert et aussi Maurice Blackburn, à l'ONF dans les années 50. Donc, tous ces films-là, notamment Synchronie, là, qui est le gros chef-d'œuvre de McLaren par rapport à ça, de créer de la musique en faisant des égratignures sur le côté d'une pellicule. Donc, c'était pas une musique instinct. Ben, c'était pas une musique composée, si on peut dire, parce que Norman McLaren poursuivait son trait sur la bobine, donc inévitablement graffinait la ligne son, parce que si vous imaginez une bobine fictive dans votre tête, il y a les trous pour faire passer, pour faire accélérer la bobine, la faire passer dans la machine, juste à côté des trous, t'as les lignes de son. Et les lignes de son, c'est ça, c'est sur ce lieu-là que l'on pouvait marquer la musique. Norman, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Norman, on l'appelle pas. Monsieur McLaren passait son pinceau, son aiguille, ou peu importe, le passait directement sur ça. Je sais aussi qu'il y a des musiciens qui font ça avec le sillon vide du vinyle. Si je me rappelle bien, je pense qu'un des compositeurs pour The Stars fait ça beaucoup, de graffiner l'intérieur. Vous savez, cette espèce de loop vide qu'on entend à la fin d'un vinyle, là, le...
Oui.
Ça, c'est un endroit qu'on peut investir avec une forme de musicalité avec l'artifice. Donc tout ça, sans me tromper, je pense que ça va tout dans ce qu'on appelle le graphical sound. C'est comme très, très, très intéressant. Ça continue, bon, évidemment, vers les années 60, évidemment, en 1968, avec la production de Bookends de Simon & Garfunkel et Abbey Road de Beatles. C'est l'explosion du Moog.
En fait, il faut dire Moog.
Ah!
Oui.
Oh, merci! Aïe, c'est cool, ça!
Non, mais c'est genre... T'es pas le seul à dire Moog, mais j'ai lu à quelque part, non, faut dire Moog.
Ah.
OK.
Wow! OK, ben Moog, je ne ferai plus jamais cette erreur-là. Et donc, c'est ça, après ces deux albums-là, il y a eu une deuxième vague de création de synthétiseurs. Il y a eu la création du mini Moog, aussi, qui a été extrêmement utilisé. En introduction aussi, c'est une personne que je voulais mentionner, Dahlia Ann Derbyshire, qui est une dame british qui est née en 1937, qui est la femme qui a composé le thème sonore d'introduction de Doctor Who.
Ah.
En 1960, elle a été engagée par la BBC. Elle a travaillé avec avec Ron Garnier pour faire la trame sonore de Doctor Who. Puis c'est elle qui est reconnue comme l'auteur principal de ce « ouh » que je peux pas faire correctement, mm-hmm. parce que ça module à l'os. Mais Dahlia Derbyshire est vraiment une femme pionnière dans le domaine de la musique électro-acoustique. En 1966, elle a travaillé encore pour la BBC, mais elle a embarqué sur dans le Radiophonic Workshop et avec Brian Hodgson et Peter Zinoviev, qui malheureusement je ne connais pas, mais que je connais de nom maintenant à cause de Dahlia, ont monté un truc qui s'appelle Unit Delta Plus, qui était vraiment, vraiment comme une des grandes premières organisations pour la promotion de la musique électronique, électroacoustique. Encore ça, je suis passé d'un terme à l'autre et je suis convaincu qu'il y a une distinction à faire. Malheureusement, je suis encore un peu néophyte pour être capable de totalement cerner qu'est-ce que ça veut dire. Moi, Dahlia, je l'ai découvert parce que c'est elle qui a fait toute la trame sonore, qui a fait toute l'orchestration sonore pour Legend of the Hell House, qui est un film d'horreur extraordinaire, qui est vraiment, vraiment bon, parce que le travail sonore à cette époque-là, surtout avec Robert Wise puis The Haunting, il y a énormément d'attention qui a été mise sur la construction d'un environnement sonore. Et Dahlia en a fait partie pour Hell House. C'était vraiment, vraiment cool. Rapidement aussi, il y a un petit aspect personnel par rapport à ça, parce que je constate que le synthétiseur, dans sa forme maintenant populaire, est quelque chose qui m'attire, moi, personnellement, énormément par rapport à la radio. J'ai eu une petite formation avec Ken Mallard qui m'a montré comment faire fonctionner un pad MIDI et une mini-formation aussi pour les séquenceurs, parce que je trouve que c'est très intéressant quand on fait de la radio, notamment du podcast, d'utiliser ces instruments-là pour créer, comme je disais, des environnements sonores très divers. Tu sais, c'est des trucs que je constate qui me proviennent de mon enfance. Howard Stern s'en servait et s'en sert encore. Rosie O'Donnell est probablement un des exemples de personnalités qu'il a adoptées le plus rapidement pour la télévision. Maintenant, c'est monnaie courante. En fait, je pense que David Letterman ne l'a jamais utilisé. Mais Rosie O'Donnell, on se rappelle, elle avait des bouts de The Who's Tommy de Ken Russell en autopress à côté de son bureau. Puis je constate, son bureau d'animation, son émission de jour, je constate que c'est resté dans mon imaginaire de comme, ah oui, c'est le fun d'avoir ces petits trucs-là sur le côté.
Je pense que Guy Lepage l'utilise, à tout le monde en parle.
T'as raison, ben oui, c'est vrai. C'est rendu vraiment un usage commun d'avoir ce petit pad-là pour du...
ponctuer l'animation. Oui.
Exactement, puis je pense que, pour ma part, c'est révélateur de la fonction du son. Oui, autant qu'on est à la télévision, ils sont quand même en train d'ajouter un support auditif augmenté. Puis ça m'a vraiment... ça me charme. Puis vous allez voir, là, avec la mutation du podcast et tous les trucs qu'on va essayer de faire dans la prochaine année, je vais probablement devenir de mieux en mieux avec ces sujets-là. Mais je laisse la parole immédiatement à Hélène, parce que de ce dont tu veux parler.
Oui, je vais juste commencer par une parenthèse.
Ah oui, s'il vous plaît, je t'en prie.
Il y a Wendy Carlos aussi qui a été super importante pour l'histoire de la musique au synthétiseur. C'est elle qui a fait la musique, qui a électrifié Bach, non, Beethoven, désolé, pour Clockwork Orange. Donc, tout ce qu'on entend, là, le Beethoven électrifié, électronisé, ça vient de Wendy Carlos. C'était sur un Moog, d'ailleurs. Ah. Et ça a beaucoup popularisé le clavier Moog.
Si je me rappelle bien, la première... Là ça devient comme...
La première trance, là. C'est ça la question, non?
Non, je pense que Orange Mécanique est la première trame sonore entièrement... électronique.
Oui, je pense que oui. Je pense, parce que qu'est-ce qu'on dit souvent à propos de Wendy Carlos, c'est qu'avant c'était Walter Carlos, elle a changé, c'est la première transe également. qu'on sait, là, c'est sûr.
Tu viens vraiment d'ouvrir une porte très intéressante par rapport à comment est-ce qu'on peut altérer le son, puis comment est-ce que ça peut... Ben, l'altération du son, l'altération de l'individu,
c'est un autre sujet.
Je pense que ça faisait partie de son projet, en fait, un peu.
Je
suis pas calé là-dedans, là, mais je serais prêt à dire qu'effectivement, il y a quelque chose dans à chercher à comme changer des trucs d'origine vers d'autres choses. Fait que le synthétiseur, c'est venu là-dedans. Puis,
Ben, on pense au Psychic TV, Throbbing Gristle, Genesis P. Orridge, puis son projet avec Lady J, qui... Puis ça va être pour une émission qu'on va faire avec Myriam, évidemment, là, que ce couple-là ont tenté d'atteindre l'homogénésis. Donc, un homme et une femme qui, à coup de chirurgie, ont tenté de devenir...
Une seule et même personne.
Ouais. Puis, évidemment, Genesis P. Orridge était... Et sera toujours un pionnier de la musique électronique industrielle. Le punk électronique, c'est lui, là, essentiellement, avec Psychic TV. Fait que moi, il y a peut-être quelque chose... Une hypothèse peut-être moins vérifiable, mais tout aussi stimulant.
OK, mais là, je vais vraiment commencer ma chronique. Je vais parler plus des questions d'authenticité et l'espèce de la relation amour-haine, vraiment, qu'on a avec, avec le synthétiseur dans la musique populaire, particulièrement des années 70 et 80. Pour l'émission, j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Synth Britannia, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Et c'est une espèce d'historique sur les premiers bands de synth pop britanniques. Donc, on les suit à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et à peu près tous et chacun d'entre eux, incluant mes petits dieux Depeche Mode, là, que j'aime vraiment beaucoup, ont révélé que leurs premiers albums, ils étaient complètement détruits par la critique. Ils étaient vraiment détestés par l'establishment critique britannique en particulier. Et moi, ça m'a vraiment interpellée parce que Depeche Mode, aujourd'hui, non seulement je les aime beaucoup, mais ils bénéficient d'une valeur au niveau du point de vue de l'establishment critique vraiment très forte. Là. C'est un groupe pionnier, tu sais, que à peu près tout ce qu'ils font est bon. Là, tu sais, comme un de ces bands intouchables. Ils ont des tunes moins bonnes, mais...
Mais non, la valeur intouchable est...
Ouais. C'est ça, Construction Time Again, Music for the Masses, Black Celebration, ce sont des classiques, là, vraiment, de la musique populaire contemporaine. Fait que je me suis vraiment questionnée là-dessus, mais j'ai essayé de penser aussi à c'est quoi les autres genres, styles musicaux des années 70-80 qui mettaient beaucoup de l'avant le synthétiseur, et je suis arrivée avec le prog, la musique progressive, rock progressif, Pink Floyd, Genesis et tout ça, que là, je vais l'avouer, je n'aime pas. J'aime pas ça, le prog. Donc, je vais essayer d'être gentille, mais ça va être un peu difficile. Et aussi, très fameusement, le disco. Et le prog, qu'est-ce qui est vraiment aussi intéressant de remarquer, finalement, c'est que le prog, le disco et apparemment donc le synth-pop, malgré mon cœur qui bat, étaient trois musiques vraiment... à leur début, à tout le moins, détesté par la critique. Le prog a été considéré une musique de mauvais goût où c'était vraiment une démonstration absolument inutile et vide de la virtuosité absolument phénoménale des membres du groupe en question.
Drôle ça rigole, de critique.
Ça rigole autour de moi, mais c'est vrai, c'était vraiment comme, voyons donc, là, arrêtez ça, là, Emerson, Lake and Palmer, des tunes de 18 minutes là, avec des solos de synthétiseurs là, qui durent 12 minutes là-dedans. Là,
c'est la démonstration de vos talents, messieurs. C'est un
mais
peu bizarre.
C'est tout, c'est ça. Mais c'est, le disco, on peut en parler beaucoup. C'est de la musique répétitive qui faisait danser... en fait, j'en parlais un peu tout à l'heure, là, qui faisait danser les homosexuels, les Africains-Américains, et aussi beaucoup de mamans de banlieue qui allaient danser la fin de semaine en ville en mettant leur sacoche devant elles, en dansant autour de sacoche.
Ça vient de là, ça.
Ah, je pense que c'était là avant, mais l'image est vraiment restée. Et le synth-pop, ben, on connaît un peu les groupes, mais c'est des jeunes dandies britanniques des années 80 qui se bleachent les cheveux ou qui se mettent du eyeliner, donc ils ont qui sont très minces aussi, minces comme des punks. Donc il y a toute une connotation là, d'homosexualité aussi là-dedans. Et là, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée particulièrement sur deux auteurs que j'aime beaucoup en étude de la musique populaire, Simon Firth et Keir Kightley. Et ils ont parlé, eux autres, de les questions, c'est quoi la mauvaise musique et c'est quoi aussi... qu'est-ce qui est bon aussi? Qu'est-ce qui est pas bon et qu'est-ce qui est bon? Simon Firth a affirmé qu'il y a trois... En fait, il y a trop grands critères pour affirmer qu'on n'aime pas la musique. Qu'est-ce qu'on écoute, c'est mauvais. Tout d'abord, la musique qui est stupide. On peut inclure Motley Crue là-dedans, donc des espèces de blancs-becs qui savent aucunement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui parlent juste de chicks puis de faire le party. De la musique stupide, c'est généralement considéré comme de la mauvaise musique. La musique de mauvais goût, deuxième catégorie. Et là, le prog pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est vraiment la fonction de la musique rock, la musique populaire, de démontrer tes talents virtuoses de musicien classique? Je le sais pas. Donc, il y a une question de fonction ici là, qui est pas la bonne. Donc, musique de mauvais goût. Et troisième, et peut-être le plus important, et qui regroupe, selon moi, les deux précédents, la musique mal aimée, souvent, c'est la musique qui est jugée pas authentique. Et là, on a le mot important de la culture rock, le mot fondateur de la culture rock, l'authenticité. Il y a toute une construction qui se fait autour de l'authenticité. Il y a toute une hiérarchie de goût, mais aussi, de manière très importante, une hiérarchie morale. C'est pas juste de la pas bonne musique qu'on n'aime pas, c'est de la mauvaise musique, de la musique qui n'est pas authentique. C'est associé à des valeurs corrompues, négatives de la société de masse. C'est de la musique qui est aliénée, qui est complice aussi de cette société de masse où les individus se perdent, où les individus sont abrutis par justement l'espèce de culture pop-mart, là, pop-start, là, c'est quoi là? Les tartes là, le matin.
Les Pop-Tarts?
Les Pop-Tarts, ouais. Merci. Là, j'étais comme perdu dans mes périssianismes.
Mais aussi la tournée d'U2.
Oui.
C'est pour ça.
J'ai lu à propos. Donc, ils sont complètement perdus dans les Pop-Tarts. Là, et il y a quelque chose de moralement infect là, avec la mauvaise musique, finalement. Parce que le bon rock, la bonne musique, c'est de la musique sérieuse. C'est une espèce d'écrin pur à même, situé vraiment au milieu même du capitalisme, parce que la musique rock, c'est quand même dans des processus industriels très complexes et qui convoquent plein de personnes et c'est au cœur de nos vies. Donc, on peut dire que c'est underground, là, on peut pas dire ça. Mais c'est comme une espèce... Bravo à tous les musiciens, à tous les journalistes et à tous les fans qui ont réussi à construire le rock comme étant cette espèce d'écrin pur au milieu même du capitalisme tardif. Et là, j'arrive au texte ici de Keir Keighley, qui s'appelle Reconsidering Rock. Je sais que là, je le dis un peu dans le vide, je suis pas sûre que les gens vont aller lire ça, mais c'est vraiment un texte hallucinamment bon, là, de Études en musique populaire, Reconsidering Rock de Keir Keighley. Voilà, je fais ma pub.
Je vais le poster sur Facebook tout de suite.
OK. OK. Oh yeah. Donc, Keir Keighley, dans ce chapitre de livre, il parle plus précisément de l'authenticité. Et donc, toutes les questions justement de morale, mais il arrive aussi à certaines... caractérisation. Qu'est-ce qui distingue un artiste ou de la musique authentique par rapport à un artiste ou un musicien ou de la musique pas authentique? Il parle beaucoup de médiation. Donc, plus il y a des couches de médiation, plus c'est... moins on a l'impression de parler vraiment avec l'artiste ou d'entendre qu'est-ce qu'il veut nous dire, moins c'est authentique. Il y a aussi une question d'auteur. Donc, bien entendu, les musiciens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons au lieu de juste interpréter les chansons des autres sont considérés comme plus authentiques. Céline Dion, on peut parler de ça. Elle se croit très authentique, c'est sûr et certain. Je suis convaincue qu'elle met ça de l'avant beaucoup, beaucoup. Ses fans aussi. Mais dans un cadre de culture rock, étant donné qu'elle interprète souvent ses chansons, et des fois, ça passe plus mal. Il y a aussi des questions d'autonomie. Un artiste, est-ce qu'il peut fonctionner par lui-même ou il a l'air dépendant de plein d'affaires?
De la machine derrière la construction, oui.
En somme, juger de l'authenticité d'un artiste, ça implique de juger des relations perçues entre la musique elle-même, des pratiques qui sont sociales, industrielles, et aussi l'auditoire. Et je vais revenir sur l'auditoire tout à l'heure. Mais aussi, je vais juste finir en disant que l'authenticité, juger de l'authenticité, ça requiert finalement un sens de l'effet, entre guillemets, objectif. Ce qui est impossible de déterminer, mais un sens, essayer de découvrir objectivement qu'est-ce que la musique fait sur des facteurs comme la mise en marché, les technologies, ce dont on parle aujourd'hui, l'histoire même de la musique populaire, donc comment tu t'insères dans la musique populaire, les changements de style, etc. Il y a plein d'affaires. Et donc, l'authenticité, puis c'est ça, et ça c'est très important à retenir pour le reste de ma chronique, c'est quelque chose de très contingent. Quelque chose, donc ça veut dire que quelque chose qui est considéré pas authentique dans un certain passé, dans un certain contexte, peut devenir authentique à l'aune de nouvelles conjonctures et de nouvelles
d'impondérables historiques.
Oui, c'est ça. Oui. Et de plein de processus sociaux, de mémoire et tout ça. Revenons au synthétiseur. Parce que là, j'ai fait ma belle belle introduction là, sur l'authenticité. Donc, pour revenir au rock progressif, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de démonstrations d'une espèce de virtuosité vide à travers ça. Puis, j'ai beaucoup de misère de parler du prog parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas mon genre de musique préférée. Donc, je vais laisser ça de côté tout de suite. Parlons du disco et parlons du synth pop, plus spécifiquement. Ces deux styles-là sont des styles qui mettent vraiment la danse de l'avant. Tout à l'heure, on va écouter un extrait de Depeche Mode et je vous mets au défi, les gens à la maison et même nous-mêmes en studio, de pas danser durant ce moment-là. C'est très, très entraînant. Le disco, on sait c'est quoi. Si on parle des grands noms, le Bee Gees, Abba, Chic, mais il y a aussi Giorgio Moroder, Donna Summer, il y a plein d'autres artistes qui étaient le Studio 54 et il y avait plein d'autres discothèques. Montréal, d'ailleurs, terre de disco. On était une des plaques tournantes du disco à la fin des années 70. Toute cette association à la danse me ramène à la question de l'auditoire. J'ai dit tout à l'heure que l'authenticité, il y avait des questions de relations entre la musique, les pratiques sociales, industrielles et l'auditoire. Et là, j'y reviens. Qui danse? Qui peut danser? Qui peut aller à des clubs?
Moi.
Donc, toi?
J'y vais de ce pas.
Non, mais souvent, la musique est reliée, en fait...
La jeunesse.
La jeunesse, ouais. Les enfants peuvent danser, ils peuvent pas aller des clubs, mais ils ont cette liberté-là dans leur quotidien. Les femmes dansent beaucoup. Quand on dit danseuse, juste danseuse, mm-hmm. ça nous met une certaine sphère en tête. Les femmes dansent beaucoup depuis toujours. Les homosexuels dansent beaucoup. Les Afro-Américains dansent beaucoup. Donc, il y a dans ces auditoires-là, sauf peut-être les Afro-Américains, que ça, c'est une autre question qu'on abordera peut-être un autre jour, mais dans les questions de femmes, enfants, homosexuels, il y a beaucoup une idée comme de quoi c'est des auditoires qui sont non-discriminants, qui sont incapables de distinguer c'est quoi de la bonne musique. Et particulièrement si on se met à l'époque du disco où c'était... du boom-boom, très accentué à chaque soir, tout le temps, et qu'il y avait plein de gens qui dansaient de manière mécanique là-dessus. Justement, ça donnait pas l'impression qu'ils appréciaient vraiment la musique. Je pense qu'ils appréciaient plus la coke qui venait avec, puis le sentiment de party, tu sais. Donc, c'est... Il y a comme une construction que ces auditoires-là ne sont pas valides, et donc que la musique qu'ils aiment ne sont pas valides non plus. Et je pense que la mauvaise réputation des synthétiseurs vient beaucoup de là. Donc, musique mécanique, musique technologique, il y a une médiation de plus qui se fait entre les musiciens à la base et l'auditoire. Je pense que tu vas nous parler de ça, Philippe?
Charles.
Ah,
oui, hey, oui, je vais parler de ça.
Ça, c'est vraiment une gaffe. Je m'excuse.
C'est pas grave, c'est vraiment pas grave.
Mais c'est enregistré.
Sans rancune.
mais il y a une médiation de plus, donc c'est comme s'il y avait une machine là entre l'artiste et l'auditoire. Et en plus, les auditoires qui écoutent vraiment la musique avec synthétiseur de manière avide, mais on n'a pas l'impression que c'est un auditoire valide qui reconnaît justement la place de cette musique-là dans l'histoire de la musique et tout ça. Mais, et là je vais finir sur une bonne note, haha, c'est un jeu de mots, il y a eu un changement dans la réception critique, autant du disco et du synth-pop. Le prog, probablement aussi, mais ça, je m'y intéresse pas, donc on s'en fout. le disco aujourd'hui, certains artistes disco d'aujourd'hui sont vraiment des petits dieux à quelque part. Là, je pense à Giorgio Moroder, là, qui a été invité sur l'album de Daft Punk, qui c'est vraiment une des meilleures chansons de cet album-là. Il fait des tournées vraiment très prestigieuses. Il a été invité à Pop Montréal à l'automne dernier, je crois.
Oui. Exactement.
Puis c'était vraiment un invité de marque, là, d'honneur là, de Pop Montréal. Il y a Gino Socchio aussi, c'est comme une espèce de génie inconnu, très obscur disco. Oui, j'ai entendu parler de lui. Je pense que c'est sur un article sur Pitchfork, quelque chose comme ça. C'est disponible sur Spotify. C'est un genre comme qui s'est complètement encabané, puis tu sais, comme qui jouait avec des synthétiseurs, comme.
comme en parfait ermite, là.
Oui, en parfait ermite. Wow. Que comme quand il a ressurgi, c'était comme 1985, c'était trop tard. quelque chose comme ça. Puis ouais, mais c'est disponible. Ouais, ça, on va le mettre sur la page web. Je vais retracer ça, puis je vais vous mettre ça.
Oui, s'il vous plaît.
Et aussi, le synth-pop aussi, les grands noms du synth-pop sont aujourd'hui vraiment très appréciés. Depeche Mode, Pearl Jam, bien sûr, oui. Pet Shop Boys. Ça, c'est tellement le contraire. Et ça, je crois que ça a rapport avec un développement aussi de ce qu'on appelle l'authenticité moderniste. Donc, l'authenticité que j'ai décrite tout à l'heure, c'était très romantique. Donc, une authenticité, on pense à le modèle Bruce Springsteen, là. Donc, une rockstar qui a l'air accessible, qui parle à ses fans directement, même s'il y a plainte et même s'il y a tout un appareil autour de lui, on est au courant, mais on a l'impression qu'il nous parle, que c'est... qui s'insère aussi dans une espèce de lignée où la musique est, tu sais... populiste et, tu sais, il y a pas beaucoup de changements au niveau stylistique, très sincère là, dans sa manière de présenter, alors que les synthétiseurs, eux autres, sont plus du côté de l'authenticité moderniste, où là on pense plus modèle David Bowie. Donc, on joue plus sur l'esthétique, on cherche à tout le temps à progresser, à trouver des nouveaux sons, à expérimenter ces nouveaux sons, à célébrer la technologie. Et ça, cette nouvelle branche de l'authenticité s'est vraiment développée avec le punk.
Oui.
Donc, à la fin des années 70, début années 80, justement au moment où le synth-pop apparaissait, tout ça. Donc, c'est avec le recul qu'on a pu bien apprécier la musique dansante de synthétiseur à sa juste valeur. Et voilà, je pense que je termine là-dessus.
Et tu termines très, très bien. On accompagne tout ça de tes petites divinités personnelles qui sont Depeche Mode.
Depeche Mode, oui.
On va l'écouter. Everything Counts. We'll be right back. Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pop en Stock. C'était Depeche Mode et Everything Counts. Juste à temps pour les flûtes tunisiennes. C'était quand même tout un exemple pour notre thématique aujourd'hui, puisque nous parlons des synthétiseurs. Et là, Charles, en studio, qui va venir nous parler un peu de ces problématiques-là, en fait, que Hélène a présentées, mais peut-être plus dans le concret, puisque tu es musicien.
Oui, puis ça continue un peu ce qu'elle disait, clairement, là, mais je vais y aller plus d'une espèce d'analyse anthropologique un peu du son puis de nos volontés en tant qu'humains. Donc,
le plancher
ça.
Est à toi.
Merci. Donc, c'est ça, moi je suis moi-même musicien, puis j'utilise précisément des machines, des synthétiseurs, des trucs électroniques pour faire de la musique. Puis j'ai parfois été confronté, ou sinon c'était des amis à moi qui étaient confrontés à ça, puis qu'on en parlait ensemble, à des discours en fait qui stipulaient que la musique électronique, c'est pas bon, c'est insignifiant, c'est impertinent, puis c'est facile à faire.
Ouais.
À ce moment-là, ça m'a frappé un peu. Depuis ce temps-là, je me suis intéressé à la musique dans ses rapports avec l'humain. Son histoire, bien avant la musique classique occidentale, parce que des fois, on est porté à remonter dans la musique classique, mais on n'est pas vraiment au courant. Peut-être qu'il y a bien des choses qui viennent avant ça, avant Mozart, Handel, etc. Puis, dans le fond, en faisant ça, je cherchais à comprendre ce qui faisait qu'en mon fort intérieur, j'étais en profond désaccord avec ces gens-là qui me disaient des trucs comme ça, puis de questionner en même temps la valeur de la synthèse sonore pour voir plus clair personnellement, savoir si, bon, c'est vrai que c'est un peu boboche ou si c'est pertinent. Donc, ce que je vais communiquer ici, c'est ça s'oppose en réaction, en fait, à ces discours-là qui disent que la musique électronique est artificielle et impertinente, qui s'appuient souvent sur des arguments tels que la facilité puis la valeur synthétique, donc non réelle et non organique. Puis « organique », ici, je le mets entre guillemets parce que c'est un mot qui m'énerve un peu. Et souvent, ces gens-là vont faire la critique des musiciens et musiciennes qui dorénavant ne seraient plus obligés d'être talentueux ou talentueuses pour composer une musique quelconque. Puis ils stipulent souvent aussi que la synthèse sonore, c'est technologique et que du coup, ça tend à diviser l'humain de son investissement musical.
Wow!
Puis dans ce sens-là, j'aimerais juste souligner là, que je ne sors pas ça de nulle part. Je continue un peu ce que Umberto Eco essayait de faire dans « La musique et la machine » qui a été publié en 1964, un petit article dans une revue italienne à l'époque. Où il parlait déjà de ces problèmes-là, de l'enregistrement, tout ça, de la culture de masse autour de la musique qui était produite très rapidement à ce moment-là, puis on se rend compte que le débat n'est pas fini. Donc, je vais commencer en parlant...
Loin d'eux, en fait.
Ouais, non, c'est vraiment pas fini.
Je pensais vraiment qu'Hélène, elle se rendrait, là, mais il faut inclure dans ce débat-là tout le... l'autotune.
Oui.
L'autotune en fait totalement partie. Là,
parce qu'il y a sûrement moyen de faire de quoi de bon avec de l'autotune, sauf que c'est tellement généralisé que les gens sont portés à discréditer ça tout de suite.
C'est ça, parce que ça a été le bout. Tu sais, on a cassé beaucoup, 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 beaucoup de sucre sur le dos de l'autotune dans les 5-10 dernières années en musique populaire.
D'après moi, on a dû faire la même chose avec le vocoder à l'époque, là, l'instrument qui permettait aux gens de juste parler dans un micro, mais à travers le synthétiseur, de faire les notes de leur voix.
Certainement.
Ouais. Ouais. En premier, j'aimerais ça parler des intentions anciennes, archaïques de l'humain, musicalement parlant. Donc, en m'intéressant au passé, je veux souligner les rapports que l'humain entretient depuis des lustres avec la synthèse sonore. Puis, dans le fond, j'aimerais ça parler j'ai trouvé ça dans un petit article qui s'appelle History of Sampling, qui a été publié en 96 par Hugh Davies. Je sais pas si je le dis bien.
Hugh, moi.
Hugh. Mm-hmm. Et dans le fond, il parle là-dedans c'est une histoire du sampling, mais au début, il propose le fait que la synthèse sonore, ça date pas d'hier, puis que ça date pas non plus du premier synthétiseur, mais que déjà, il y avait un instrument qui s'appelait l'hydrolisse romain. Oh. À l'époque romaine, l'époque médiévale, qui était installé, c'est un orgue qui était installé dans toutes les cathédrales à l'époque. Et il y avait des rangées de tubes, parce qu'un orgue, c'est comme plein de rangées de tubes, mm-hmm. qui étaient nommées à partir des noms d'autres instruments qui existaient déjà. Dans le fond, ça stipulait le fait qu'il y avait des timbres de tubes d'orgue qui étaient supposés ressembler
qui pouvait mimiquer un autre instrument. Ça fait que tu avais déjà un proto-clavier imitateur. Wow!
Ouais. Fait que ça, je sais pas quel instrument ça imitait exactement, mais c'est pareil comme avec les synthétiseurs électroniques digitaux qu'on a aujourd'hui, qu'il y a un son brass, big brass, puis là, on a des pads complètement synthétiques, tout ça, sauf que il y a quand même toujours une idée de comme sampler des vrais instruments puis les mettre sur un clavier. Donc, ça date pas d'hier. Et encore plus loin que ça, en Chine ancienne, il mentionne le fait qu'il y avait une synthèse verbale qui était recherchée. Dans le fond, dans les mythes anciens, on cherchait à synthétiser, reproduire les sons de la nature à travers notre corps. Ou dans les légendes aussi, pour raconter tout ça, on faisait ça. Puis il parle en Chine justement d'un temple où il paraît qu'il y aurait des tubes à vent, qui auraient, du vent là, qui passe dedans, qui auraient été installés, que quand que tu ouvres la porte, ça reproduisait le son de quelqu'un dans la langue quelconque en Chine qui était parlé, qui disait de « s'il vous plaît, fermez la porte ». Quand que la porte se refermait, ça disait « merci d'avoir fermé la porte ».
Wow!
Fait que c'était des tubes qui reproduisaient la voix humaine.
Ben, tu mentionnes ça, puis ça me rappelle un voyage que j'ai fait au Mexique, dans le lieu sacré de Chichen Itza, en fait. Il y a façon de se positionner correctement au niveau du sol. En fait, c'est évidemment là, une position extrêmement précise qu'il faut prendre face à tous les temples qui, si je me rappelle bien, ont tous des noms d'oiseaux.
OK.
Et quand on tape des mains de cette position-là, la réverbération du son des mains qui montent les escaliers et qui se rendent au temple principal, là, si on peut dire, la petite maisonnette qui est en haut, faisait des imitations de ces bruits d'oiseaux-là en particulier.
Ah oui.
Donc, tu peux taper des mains puis t'entendais un oiseau qui te rappelait. Puis ça, c'était une science extrêmement précise, malgré qu'on dit que c'est des peuples anciens, mais qui étaient capables de, avec l'architecture littéralement, là, reproduire des sons. C'est fascinant que tu dises ça.
Ça va vraiment dans le même sens que ce que je veux dire par la suite aussi. Là. C'est tout connecté, ces affaires-là, parce qu'on se rend compte que Il y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Puis qu'un synthétiseur, ça fait pas juste sortir de nulle part puis devenir soudainement l'artificialité du monde qui nous entoure tout d'un coup, là, comme ça, en 1970, en
1976, oui.
Et voilà.
Donc, non, c'est qu'il y avait, évidemment qu'il y avait une volonté humaine.
Ouais,
la technique est venue rejoindre l'imaginaire puis l'ingéniosité puis la curiosité humaine, mais oui.
Fait que c'est ça, dans le fond, ça m'amène à mon prochain point qui est la musique du corps que j'appelle. C'est pas moi qui ai inventé ce terme-là non plus, là, mais juste proposer une petite hypothèse en partant déjà par rapport au rythme et au corps que j'ai trouvé dans un petit texte qui s'appelle « Musique inconsciente » qui a été écrit par George Grodek en 1927. Ça date un peu, puis des fois c'est un peu douteux comme texte, mais cette hypothèse-là est pertinente, je trouve. Il parle du fait que quand on est bébé dans le ventre de nos mères, dans le fond, tout ce qu'on trouve à faire à ce moment-là, parce qu'on réfléchit peut-être même pas encore, mais on est en train de se construire biologiquement, puis tout ce qu'on entend, quand on arrive à entendre à un certain point, c'est le battement du cœur de notre mère. Il paraît que au fil du temps, nous, avec notre cœur qui grandit puis qui se construit, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de s'harmoniser avec le cœur de la mère puis de battre en même temps que lui. Puis là, Grodek, il parle il fait l'étymologie du mot « accord », qui viendrait du mot cœur, en fait, qui voudrait dire cœur, qui découlerait de toute cette de tout le lexique.
Ouais, le champ sémantique
de la génétique puis tout ça. Donc indéniablement, on peut pas passer à côté du fait que le corps fait de la musique. Déjà, le rythme est en dedans de nous. Et ce qui m'amène à dire aussi qu'une fois venu au monde, on a commencé à essayer pour s'exprimer, parce que moi, je suis pas mal persuadé que avant le langage, il y a eu d'autres formes de langage. En fait, on peut considérer la musique comme un langage, ça, c'est chose commune.
Ouais.
Mais avant la parole, les mots, tu sais, il y a eu la communication juste verbale, puis le tapement des mains, comme tu disais tantôt, et la danse, tout ça. Fait qu'il y a du monde qui tapait sur des choses avec leurs mains, qui tapait par terre, ils faisaient du rythme. Puis, en fait, ça m'amène à parler des instruments de musique qui, selon moi, si notre corps est... Si on est des humains qui construisent des choses, puis qu'on essayait de, avec notre corps, agir sur le monde puis communiquer des choses, les instruments de musique, ça devient des extensions de nos corps. Ils sont pas divisés de nous. C'est des créations qui viennent de l'humain, donc c'est des extensions de nos corps. Puis, dans le fond, les instruments de musique, c'est des extensions, comme je viens de dire, qui permettent de reproduire les sons environnement et d'imiter la réalité de la nature. Parce que avant qu'on ait des instruments, on essayait d'imiter ce qu'on entendait avec notre voix, avec nos mains, avec nos jambes, whatever. Puis plus tard, ben, en se perfectionnant, on a réussi à faire des instruments qui nous permettaient de se rapprocher encore plus près de ça.
De la véritable imitation de la vie, là, de la vie naturelle. Oh, oui. Puis, ben, c'est ça, là où l'instrument est un objet, est un outil.
Oui.
C'est ça.
Puis ça, je m'inspire beaucoup du système des objets de Baudrillard, là, pour parler de ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que lui, il parle des objets comme étant toujours façonnés à notre image pour nous, puis que ce soit utile pour nous et utilisable. C'est jamais juste un objet qu'on crée pour rien. Même l'art, là, c'est une autre question, sauf que l'art, ça sert pas à rien.
Non,
sauf
c'est
que
ça
fait partie des objets qui sont moins utiles, entre guillemets. Mais voilà. Donc, je continuerai en disant que, dans le fond, j'aimerais ça... Si on, avec notre corps, on fait de la musique, avec les instruments, c'est une extension qui permet de faire ça aussi, de comprendre les instruments comme une extension possible de notre existence, en fait.
Oui.
Puis notre corps aussi, mais les instruments de musique en tant que tels. Dans le fond, c'est... Je m'inspire d'un texte, d'un article critique sur un essai qui s'appelle « L'existence musicale, essai d'anthropologie phénoménologique » qui a été écrit par Philippe Grossos en 2008, où il dit que, dans le fond, la musique, ça ne nous appartient pas. C'est pas un fait humain, en fait. C'est que nous, on entend les sons, l'environnement fait de la musique, mais que c'est particulier à l'humain de chercher à faire un sens avec ça, puis aussi de chercher à le reproduire.
Ouais.
Et dans le fond, la musique, selon moi, je le verrais comme une sorte de dialogue avec le monde. Parce que si la musique, le sonore, ça existe sans notre présence, je pense que l'affirmation inverse, ça pourrait peut-être ne pas être soutenable. Parce que la musique, ça nous aurait permis, au premier temps, d'entrer en dialogue avec le monde, à intégrer le caractère chaotique de la nature en notre corps pour lui donner un sens, et de reproduire pour confirmer notre appartenance au monde. Dans le fond, on reproduisait ces choses-là pour confirmer qu'on a notre place dans cette nature-là, notre possibilité à exprimer notre rapport avec ce qui nous entoure. Puis ça nous a permis probablement aussi de survivre. Parce que ça devait être extrêmement stressant d'être un humain dans les premiers temps.
Dans les
et de ne pas trop savoir... Là, tout le temps, l'idée de la conscience, là, on dirait que c'est de la magie. Ça a apparu un jour de même. On ne saura sûrement peut-être jamais. Mais maudit que ça devait être stressant d'être là à ce moment-là quand il commençait à faire noir puis tout. Fait que les gens devaient un peu se demander « qu'est-ce que je fais ici? » Il me semble qu'ils devaient se sentir un peu détachés. Donc, ils ont senti le besoin de s'exprimer puis de... confirmer leur appartenance à l'environnement qui était là.
Mm-hmm. Ouais, ça me semble très... ça me semble... C'est très holistique, mais en même temps, c'est très difficilement argumentable. Là,
ouais, mais en même temps, je parle de ça, puis tu sais, je me prétends pas avoir une volonté absolue, vérité absolue non plus. Là, c'est comme des hypothèses que j'aimais, mais je trouve que ça fait du sens quand même un peu.
Ouais, il faut-tu mettre les drogues aussi là-dedans?
Ouais,
ouais.
Absolument. Fait que ça m'amène à parler plus précisément du synthétiseur. Je vais y venir, enfin. Donc, moi, je pense que le synthé et beaucoup d'autres machines musicales en général, ça serait pas moins le fruit, en fait, d'une intention similaire à ce que je viens d'expliquer. Le synthétiseur, ça reste une extension de notre corps. Ça participe à permettre aux humains qui l'utilisent de traduire leur rapport d'existence avec le monde, de confirmer leur appartenance au sein de l'univers qui les accueille. Moi, je considère qu'il n'y aurait pas de valeur plus ou moins importante à définir entre une musique ou une autre selon les moyens et les outils qui permettent sa production. Dans le fond, je donnerais les exemples que, tu sais, un violon à l'époque, c'était une avancée technologique. Un piano aussi. Mm-hmm. Le piano, ça a apparu autour du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Les tambours, même si c'est comme les premiers instruments qu'on a eus, ou presque, c'était quand même de la technologie pour l'époque. La batterie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment qu'elle est jouée, c'est un jazzman, un moment donné, qui a dit « la fanfare qui est là, je vais prendre tous les tambours, je vais essayer de les mettre ensemble, puis de jouer tout seul, puis ça a donné, ça a permis au rock d'apparaître, puis tout ça. » Puis un autre exemple, Bob Dylan s'est fait fortement critiquer de passer à la guitare électrique à une certaine époque, pour les mêmes raisons que les gens critiquent les synthétiseurs aujourd'hui, c'était la valeur électrique, technologique, moins authentique, comme Hélène parlait tantôt. Donc c'est ça.
Mais c'est aussi... C'est les répercussions d'un réflexe qui est malheureusement très humain de craindre.
Oui.
Tu sais, d'avoir une espèce de période d'ajustement où on démonise ces avancées-là, tu sais, qu'on est comme, oh non, c'est trop nouveau encore. Puis il y a une génération qui doit mourir pour laisser l'autre génération qui, elle, vit plus communément avec cette avancée technologique-là pour la normaliser. Tu sais.
Oui, c'est ça.
C'est plate, mais c'est une dynamique qui
existe.
Oui,
mais ça
pour
fait partie
tout.
De. Oui, c'est ça. On n'a comme pas le choix de passer par là, mais c'est un peu dommage, tu sais, mais on n'a pas le choix, tu sais, on dirait.
C'est ça. Puis en même temps, on a construit un énorme champ d'herméneutique autour de ça, tu sais, de dire, je pense évidemment à Laura de Benjamin, c'est là qu'on a réussi à théoriser à mort pourquoi qu'on a peur de ces choses-là, puis c'est quoi l'art à l'âge de la reproduction, puis tout.
Oui, c'est ça, exact.
Qu'est-ce qu'il y a plus d'âme, puis on est rendu, je pense qu'on a poussé, on a poussé cette erreur humaine-là à un point qu'on l'a même théorisé, ça...
Ouais.
Ça va
sauf
loin,
qu'on pourrait dire qu'il y a encore de l'aura, tu sais, dans la musique électronique aujourd'hui. Mais je pense que même si Benjamin était encore là, peut-être qu'il l'aurait constaté lui-même, tu sais, parce qu'on a vécu un long moment de... On a comme tout... Je sais pas comment dire ça, comme dévivifier les choses.
Oui,
on
est
allé loin là-dedans, dans comme... Tu sais, Kravets en est un bon exemple, mais c'est comme une parodie en même temps du nazisme, tu sais, de la millimétrie totale. Mm-hmm. Mais eux autres, c'était comme de faire la musique la plus morte possible, on dirait, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de vie là-dedans, c'est vraiment... Mais c'est super intéressant. Puis on dirait que là, on arrive à une époque où on revient un peu à comme... Ben, tu sais, ces choses-là, c'est pas nécessairement des choses mortes.
Ouais.
Ça, c'est mon postulat à moi aussi.
Ben, malheureusement, le nom du groupe m'échappe, mais j'ai souvenir, il y a peut-être à peu près 5 ans, il y a un groupe de musique électronique québécois qui a décidé de sampler une forêt. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle... Malheureusement, là, pour l'usage de l'émission, c'est évident que c'est quand je me mets à y penser que je m'en rappelle plus. Mais je vais le retrouver, je vais le poster sur la page de Pop en Stock comme complément.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on décide de faire, c'est vraiment un album de musique électroacoustique au complet, mais en utilisant des samples du Saint-Laurent, puis d'avoir fait les petites rigoles. Donc, le matériel d'origine, il ne pourrait pas être plus naturel que ça. Là. C'est le bruissement des feuilles et tout, mais c'est l'agencement.
Et ça, j'en parle un petit peu plus loin, là, mais je glisse sur le sujet, mais c'est bien correct que tu en parles aussi.
Ben, parce que je veux citer ce groupe-là qui, il faut vraiment que je l'en demande. Mais...
Fait que dans le fond, c'est ça. Par rapport au synthétiseur, je continuerai en parlant de texture, parce que selon moi, c'est indissociable du synthétiseur, mais c'est indissociable de tout son qu'on entend. Dans le fond, je trouve qu'il ne serait pas admissible non plus de valoriser ou dévaloriser une musique selon son degré de difficulté qui l'a fait naître. Parce que, en fait, comme Hélène parlait avec la virtuosité tantôt, c'est pas nécessairement important, ça. Parce que la musique, à la lumière de ce que je viens d'énoncer plus haut, c'est une question de texture et de vie, en fait, selon moi. Puis la complexité et la virtuosité musicale, c'est des concepts culturels, particulièrement occidentaux, je pense, issus de notre rapport écrit à la musique. Et du coup, notre possibilité d'expérimenter la complexité de la forme à partir de sa valeur écrite nous a permis de devenir des virtuoses de la musique. Puis c'est pas inintéressant, moi j'arbore pas ça, sauf que c'est pas juste ça la musique non plus. Puis je me suis inspiré d'un texte qui s'appelle « Musique et anthropologie, la conjonction nécessaire » paru en 2004, écrit par Bernard Laura Jacob et Myriam Rosling Olsen. Donc, pour continuer, la musique, c'est donc un rapport au monde, à la communauté. C'est pas un rapport nécessairement au talent ou à l'individu. Puis chacun de nous, on possède cette possibilité-là de rythmer notre existence.
Mm-hmm.
Herbie Hancock, dans une vidéo sur YouTube que j'ai trouvée, dit « No matter what kind of instrument we have, we use them according to what we feel. » Donc, ça parle un peu de ça aussi, du fait que c'est pas important... quel instrument qu'ils ont, c'est leur feeling, c'est ça qui importe. Donc, je conclurai en disant ceci. Je trouve qu'il semblerait préférable, à l'inverse d'un pessimisme technologique et d'une sorte de phobie du cataclysme causé par celle-ci, de voir chaque nouvel outil comme le déploiement d'un éventail infini de nouvelles possibilités. Plus particulièrement en musique, je trouve ça intéressant de voir comment l'illusion d'une évolution humaine nous permet plutôt de comprendre que malgré le perfectionnement technologique, il reste que nos intentions profondes restent à peu près identiques et qu'il serait probablement bénéfique de s'intéresser plus particulièrement au sujet. Puis je finirai en disant que chaque nouvel outil, tel le gourdin ou le feu dans les temps anciens, ça nous permet toujours soit de créer ou de détruire. Puis la musique, je trouve que ça fait partie de ces formes qui pourraient nous permettre un changement de perception à ce niveau-là.
Merci énormément, en fait. C'était super instructif, puis c'était très, très bien amené.
Ben, ça fait plaisir.
Merci beaucoup pour
ta... Très content.
Oui, oui. Une très, très belle conclusion. Puis ça ouvre un peu ce champ-là par rapport à la réflexion de ce qu'on disait un peu avec Hélène, de altérer les vibrations, altérer le son, peut-être que ça nous amène à se re-questionner nous-mêmes en tant qu'humains.
Oui. Altérer les perceptions, en fait, à travers plein de trucs qu'on est capable de faire, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis qui sont, comme tu dis, les instruments sont des extensions de notre corps. Donc, ouais. De prendre une volonté, c'est très beau quand tu réfléchis, parce que de partir du battement de cœur, de grandir et de vouloir créer des objets qui sont capables d'extérioriser ce rythme-là interne, l'extériorisation du rythme fonctionne de manière à causer un feedback par rapport à notre monde qui nous renvoie des signaux, ouais, qui lui viendra nous affecter.
C'est ça.
Puis ça fonctionne autant de cette tradition ultra-griot de un gars dans le bois tout seul, mm-hmm, à David Lee Roth, là, dans une foule,
ouais,
dans un amphithéâtre japonais qui reçoit 43 000 nippons qui gueulent après.
Ben souvent, c'est ça l'important. En musique, c'est aussi l'effet d'être ensemble. T'sais, tantôt, ouais, Yann parlait des gens qui dansent mécaniquement, qui étaient critiqués de danser un peu comme des zombies, puis de ne pas écouter la musique. Mais il y a des théories en sciences des religions qui disent que quand on commence à tout être ensemble sur le claquement d'un métronome, il y a quelque chose qui se passe. On n'est plus dans le monde de tous les jours. On est ensemble dans quelque chose de différent.
Ouais,
ça, je pense que ça nous affecte encore aujourd'hui, même si on pense être complètement désacralisé de tout.
Ouais, ouais,
mais ça, c'est un autre sujet vraiment riche et vraiment intéressant.
Et ça sera pour une autre émission, ben mais oui, tu as très bien mis la table pour Computer Love de Kraftwerk. Je te remercie encore. On va aller écouter ça.
Merci.
Bonne semaine. Popez tout le monde.
Beat to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh Paint Beats Eat pour des journées captivantes.
Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres.
Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au deuxième étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Cannes Football Club, l'alternative foot.
Bonsoir à tous.